Je suis heureux d'être ici. Montréal est l'une des grandes villes d'Amérique du Nord. Je suis venu en visite déjà et j'ai toujours apprécié de venir ici. Je suis content d'être ici parce que je suis content aussi d'être dans cette congrégation. Votre pasteur fait partie de notre ministère. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et je suis content d'être ici parce qu'en vous écoutant chanter, en vous entendant adorer, je réalisais que bien que je vive aux États-Unis et vous au Québec, nous avons un sauveur commun. Et c'est agréable de rencontrer des gens du Nord comme ça. Vous êtes-vous jamais demandé comment le système patriarcal, non, le système de courrier, j'imagine que ce n'est pas une grande question que vous êtes posée, mais le courrier était difficile à faire circuler au premier siècle. Certains du courrier, les documents officiels étaient envoyés par des soldats. Alors que les armées se déplaçaient d'endroit en endroit, portaient des documents officiels. D'autres informations étaient portées par des marchands, alors qu'ils voyageaient de ville en ville pour transporter leurs marchandises. Ils transportaient aussi du courrier pour faire de l'argent en même temps. Mais majoritairement, le courrier voyageait de manière personnelle. Si vous vouliez envoyer une lettre, premièrement, vous deviez trouver quelqu'un qui allait à l'endroit où vous vouliez que votre lettre se rende. Et alors, vous écriviez votre lettre. Et puis, vous vous fieriez à cette personne pour porter votre lettre et vous attendez. Et souvent, après que votre lettre ait traversé différentes épreuves de vol ou des choses comme ça, tu pouvais même te demander si ta lettre se rendrait au destinataire. Aujourd'hui, nous sommes habitués au courriel et puis aux livraisons en 24 heures. Et la majorité d'entre nous n'aurions pas été satisfaits du vieux système. Et pourtant, il y avait des gens qui ont transporté du courrier pour l'apôtre Paul. Par exemple, comme Étienne, qui ont porté les lettres à Corinthe. Tychique, qui a porté les lettres pour l'église de Colosse. Et Épaphrodite, qui a porté la lettre aux Philippiens. Et puis, une dame qui s'appelait Phébé, qui a porté la lettre la plus importante que Paul a jamais écrite. La lettre qu'il a adressée à la congrégation de Rome. La majorité de ces porteurs de lettres sont des héros de la foi aussi. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on lit rapidement leurs noms qui sont difficiles à prononcer ou difficiles à retenir. Mais un de ces porteurs de lettres qui a transporté une lettre qui parlait de lui. Anciennement, il était un voleur, un esclave en fuite, mais il était aussi celui qui a porté la lettre à Philémon. L'histoire derrière cette petite lettre, qui est juste avant la lettre aux Hébreux, semble être quelque chose comme ceci. Philémon était un riche propriétaire terrien qui habitait dans la ville de Colosse. À un certain moment, il a rencontré l'apôtre Paul. Nous ne savons pas où cela s'est produit. Il semble que Paul n'avait pas visité Colosse, mais il semble qu'au moment où il était à Éphèse, à un certain moment, enseignant dans une école pour un an et demi, il aurait rencontré Philémon. Peu importe la manière où ils se sont rencontrés, Paul a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ à Philémon. Et Philémon est devenu chrétien. Philémon a été touché, a été enflammé par cette nouvelle foi. Alors, lorsqu'il est revenu à Colosse, lui et d'autres nouveaux croyants ont établi une église, implanté une église qui se réunissait dans sa maison. Nous croyons que Philémon était un homme de grande richesse pour au moins deux raisons. Premièrement, il avait une maison suffisamment grande pour prendre soin d'une petite église et deuxièmement, il était propriétaire d'esclaves. L'esclavage au premier siècle était très différent de l'esclavage qu'on a connu au 19e siècle. Mais un point commun des riches, c'est qu'ils possédaient des esclaves. Et un des esclaves dans la maison de Philémon était un jeune homme qui s'appelait Onésime. Onésime n'aimait pas être esclave. Il sentait qu'il était mis de côté alors qu'il voulait participer à la vie pleinement. Alors, il a décidé qu'il allait changer sa situation. Alors, un jour, alors que Philémon était à l'extérieur, Onésime est entré dans la maison, a volé tout ce qu'il pouvait voler dans la maison, a pris les bijoux, l'argent, tout ce qu'il pouvait prendre, a mis ça dans un petit sac et s'est sauvé, est allé à Rome. La raison pour laquelle je crois qu'il s'est rendu à Rome, c'est probablement parce qu'elle est loin, très loin de Colosse. C'était aussi la grande capitale et toutes les routes menaient à Rome. Il y avait beaucoup d'activités. Un endroit où les étrangers pouvaient vivre anonymement, dans l'anonymat, sans être dérangés. Et comme toute grande ville, et c'était une place où la vermine humaine pouvait se cacher et vivre. Alors j'imagine que Onésime s'est dit, si je peux simplement me rendre à Rome, je pourrais m'y cacher mes crimes dans cette foule. Alors il s'est rendu à Rome. J'imagine que pour un certain temps, il a eu beaucoup de plaisir. Des femmes, l'alcool, le vin, les chants et toutes sortes de choses qui seraient intéressantes pour un jeune homme qui vient comme ça de la campagne. Mais après un certain temps, j'imagine que Onésime était au Colisée, en train de regarder les courses de chars, commence à discuter avec un homme à côté de lui. L'homme demande à Onésime ce qu'il fait à Rome. Onésime dit, « Ah, je suis ici pour voir la place et puis faire des affaires. » Alors son voisin lui dit, « Pendant que tu es ici, tu devrais rencontrer quelqu'un. » Cet homme s'appelle Paul. Ah, c'est un homme qui a beaucoup voyagé. La poussière de toutes les routes de Rome sont après ses souliers. C'est un homme instruit. Tu pourrais devenir un homme éduqué juste en le fréquentant. Alors, quand tu es à Rome, il faut absolument que tu rencontres Paul. Pas facile à rencontrer Paul puisqu'il est dans une maison d'arrêt en prison, mais je crois que je pourrais m'arranger pour que tu puisses le rencontrer. Alors, on ne sait pas comment cette rencontre a eu lieu, mais nous savons que lorsque Paul était dans cette maison d'arrêt, il a l'opportunité de rencontrer Onésime. Et il a partagé aussi l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à Onésime. Et Onésime, à son tour, est devenu chrétien. Ce qui est intéressant de ce message que nous annonçons de Jésus-Christ, c'est que c'est le même message qui a touché le riche Philémon, pouvait aussi toucher le fugitif Onésime. C'est le même évangile qui peut toucher une femme à Mont-Royal, qui règle ses problèmes en allant dans un bar au coin de la rue, peut aussi toucher une jeune femme au cœur de Montréal qui sert de l'alcool au bar. C'est le même évangile qui peut toucher quelqu'un de très érudit, un scientifique à l'université, peut aussi toucher un fermier qui travaille dans un pays du tiers-monde, qui travaille sa terre avec des outils usés et vieux. L'Évangile parle à tous. Roger Kipling, dans son poème « Les dames », dit que les dames charnelles et les vieilles dames sont la même derrière leur masque. Et voilà où ce message de la bonne nouvelle va nous toucher, c'est derrière le masque, sous notre peau, là où nous sommes tous pareils. Et caché au fond de nous, là où nous avons tous des secrets que que nous ne dirions pas à quelqu'un d'autre, même pas un conseiller. Caché à l'intérieur de nous, où nous avons un espace en forme de Dieu que seul Jésus-Christ peut remplir. Profondément à l'intérieur de nous, où nous voulons trouver un sens à notre vie, c'est là que ce message fait son œuvre. Et il fait son œuvre, et il a fait son œuvre dans la vie d'Onésime. Onésime donc est venu à Rome apportant ses problèmes. Et il était parti du problème, mais après avoir rencontré Paul, il est devenu partie intégrante de la solution. Lorsque quelqu'un était dans une maison d'arrêt à Rome, il était gardé au troisième étage d'une maison romaine. Il était enchaîné à un soldat romain, 24 heures par jour. Et Rome ne fournissait rien au nécessaire. Le prisonnier devait pourvoir à ses propres vêtements, à sa propre nourriture. Alors j'imagine que lorsque Paul avait besoin de quelque chose, Onésime devait aller dans la ville se procurer ce dont Paul avait besoin. Et ces deux hommes sont devenus des amis très proches, aussi près qu'un père peut l'être de son fils. Alors j'imagine qu'un jour, Onésime a pu dire à Paul, « Paul, il y a quelque chose que je dois absolument dire. » Alors qu'en est-il, Onésime, dis-moi. « Bien, je viens d'Asie mineure. Je viens d'une ville qui s'appelle Colosse. » « Oui, je connais Colosse, dit Paul. » Alors Onésime dit, « Bien, à Colosse, là-bas, il y a un homme qui s'appelle Philémon. » Alors Paul a pu dire, « Tu connais Philémon, Onésime? Je ne savais pas que tu connaissais Philémon. Je l'ai conduit au Seigneur. Si tu retournes à Philémon, assure-toi de dire à Philémon, si tu retournes à Colosse, que tu m'as rencontré. » Et Onésime a dû l'arrêter et lui dire un instant, « Je ne crois pas que Philémon veut me rencontrer. » Tu vois, lorsque j'ai quitté Colosse, j'ai quitté précipitamment. Je l'ai volé de tout ce qu'il avait. J'ai pris son argent, j'ai pris ses bijoux. C'est comme ça que j'ai financé mon voyage à Rome. Et maintenant, Paul, je suis chrétien. J'aimerais retourner, j'aimerais remettre les choses en ordre. Mais tu sais ce que la loi dit. Si un esclave se sauve de son maître et vole de son maître, il s'agit d'un crime capital. Alors j'aimerais retourner. Mais tu vois, je n'ai pas d'argent. J'ai dépensé l'argent. Et tu sais, l'idée d'être crucifié, je ne suis pas sûr que je suis prêt pour ça. Alors, Paul a dû dire à Onésime, « Il faut que tu retournes. Mais voici ce que je vais faire pour toi. Je vais écrire une note pour toi et tu l'apporteras à Philémon et je crois que tout se placera, tout rentrera dans l'ordre. » Alors, dans cette maison d'arrêt, Paul s'est assis et a écrit cette brève note à son ami Philémon. Je suis certain que Philémon a gardé cette lettre, que Onésime a gardé cette lettre bien en sécurité. Et il a commencé à faire la route pour aller à Colosse. Et j'imagine qu'il est arrivé plus vite même qu'il aurait cru. Et je peux imaginer Onésime arriver face à la maison de Philémon. Et Philémon est en train de déjeuner sur le toit de la maison. Et il voit Onésime. Oh, il boite comme Onésime. Non, ça ne doit pas être lui. Il n'oserait pas revenir ici, alors il recommence à déjeuner. Et il lève la tête encore une fois, et c'est bel et bien Onésime. Alors Philémon descend, sort de la maison, et il veut aller prendre Onésime pour le mettre sous arrêt. Et Onésime lui dit, « S'il vous plaît, monsieur, lisez cette lettre, et je ne me sauverai pas. Lisez cela avant de faire quoi que ce soit. » Alors, avec un œil sur Onésime, et un œil sur la lettre, Philémon commence à lire. Paul, t'as rencontré Onésime, Paul? T'as rencontré Paul, Onésime? Oui, je l'ai rencontré. Prisonnier de Jésus-Christ. Est-ce que Paul est encore en prison, Onésime? Oui, il est en prison. Enchaîné. Il a été enchaîné à Jérusalem, puis ils l'ont conduit jusqu'à Rome. Et Timothée, notre frère, à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip. Je crois que Aphia était l'épouse de Philémon. Et j'imagine Philémon se tourner et puis dire, « Aphia, viens ici, il y a une lettre de Paul. » Et Aphia vient, puis est en train de faire la vaisselle, alors elle vient voir, puis elle voit Onésime. « Comment oses-tu revenir dans notre maison? Qu'est-ce que tu as fait avec les bijoux de ma mère? » Et puis Philémon dit, « Regarde, avant qu'on fasse ça, il faut qu'on lise cette lettre de Paul. » À Aphia et à Archip, notre compagnon de combat. Et j'imagine que Archip était leur fils. Et à l'église qui est dans ta maison. Et comme Philémon continue à lire la lettre, il arrive à ce que nous avons noté comme le verset 10. « Je te prie pour mon enfant, Onésime, que j'ai engendré étant dans les chaînes. » Il me semble que Onésime, tu commences à te jouer un jeu à Paul, hein? Tu as fait semblant de devenir chrétien, il croit que tu es devenu chrétien. J'imagine que n'importe qui aurait pu faire ça. Mais moi, je ne suis pas impressionné par les conversions religieuses. À moins que Paul soit au courant de tout ce que tu m'as fait, je ne croirais pas à ta conversion. Qui autrefois t'a été inutile, dit Paul, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Le nom Onésime signifie utile. Alors, Paul est en train de jouer avec les mots. Il dit, au début, il n'était pas utile, il était inutile, mais maintenant, il est utile. Il est utile comme son nom le dit. Alors, je peux imaginer Philémon en train de dire, je doute vraiment que Onésime, tu puisses être utile à qui que ce soit après ce que tu m'as fait. À moins que Paul me dise qu'il sait tout ce que tu as fait, je ne serai pas impressionné par ta conversion. Et alors qu'il continue à lire la lettre, il arrive au verset 17. Et ça dit, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. » Alors, c'était vrai. Paul savait l'histoire d'Onésime. Il était conscient de ce que Onésime avait fait. Et Paul est en train de dire à Philémon, tu prends tout ce que, la valeur de tout ce qu'il t'a fait, mets-le sur mon compte. Et quand je viendrai te voir, je vais payer pour tout cela. C'est un peu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que toi, vous et moi, nous devons une dette à Dieu que nous ne pourrons jamais payer. Et Jésus-Christ vient, il prend notre dette, la met sur son compte, et lorsqu'il est mort sur cette croix, il a payé ce que nous ne pouvions payer nous-mêmes. Il a pris nos dettes sur son compte. Et comme résultat, puisque le compte a été payé, nous sommes maintenant libres. Quand Nicolas Ier était le tsar de Russie, il a souvent visité les frontières de son territoire comme soldat, déguisé en soldat, comme un colonel, Ils donnaient le mot de passe et puis ils pouvaient se promener comme ça déguisés. Et à un de ces postes, il y avait un jeune homme, le fils d'un ami de l'empereur. Et ce jeune homme était en charge des sous publics. C'était son travail de payer les soldats chaque mois, la solde des soldats, de payer pour les provisions de nourriture. Et c'était un endroit de solitude. Et le soldat fait comme tous les soldats ont fait pendant des siècles. Il a commencé à jouer à l'argent avec cet argent qui lui avait été confié. Il était sûr qu'il serait capable de le rembourser. Alors, une nuit, un soir, il pouvait gagner beaucoup d'argent. Mais un jour, une nouvelle est venue. Des messagers qui venaient de la deuxième section. C'est un peu comme la police secrète de l'Empire. Alors, ce messager de la deuxième section viendrait vérifier les livres financiers, les livres comptables. Alors, jeune homme est retourné à sa chambre. Il a mis une feuille sur son bureau. Et puis, il est allé à l'armoire où les livres étaient rangés. Et il a commencé à inscrire tout ce qui devrait y avoir comme argent. Il est allé au coffre, a sorti l'or, a commencé à compter l'or pour réaliser combien il avait en réalité, a fait la soustraction et il a réalisé qu'un montant énorme manquait. Plus que tout ce qu'il avait imaginé être capable de payer en retour. Alors il a réalisé que le matin suivant, le messager viendrait, découvrirait la vérité, le mettrait sous arrêt, lui et toute sa famille seraient dans la disgrâce. Alors, il avait le sentiment qu'il ne pouvait pas permettre cela. Il a donc décidé qu'à minuit, il se suiciderait. Il a pris un pistolet du tiroir et l'a mis sur le bureau. Et alors qu'il attendait minuit, il a fouillé dans un tiroir et a pris de la vodka et a commencé à boire. La vodka a fait son effet et puis il a mis sa tête sur le bureau et puis il a commencé à écrire. Une grande dette qui peut payer. C'est une phrase pathétique. Il a mis sa tête là encore et il s'est endormi. Et durant cette journée, Nicolas est allé visiter ce poste. Et le soir, avant de se retirer dans sa chambre, il a remarqué qu'il y avait une lumière d'allumée. Alors, curieux, il est allé, a cogné à la porte, n'a pas eu de réponse, a ouvert la porte et il a trouvé l'argent sur le bureau, le soldat qui dormait sur le bureau. Curieux, il s'est approché. Il a regardé les papiers, il a vu l'argent, les livres ouverts. Et puis il a vu que les chiffres ne balançaient pas. Et il a lu cette phrase. Une grande dette, qui peut la payer? Et puis il a compris ce qui s'était passé. Que le soldat avait probablement joué avec cet argent, qu'il était dans le trouble et qu'il allait se faire arrêter. Et il a réalisé en regardant le jeune homme qu'il s'agissait du fils d'un de ses amis. Alors, plutôt que de le réveiller, il a pris la plume et a écrit un seul mot. Et puis, il a pris son sceau royal, impérial, et il l'a mis sur la feuille. Et puis, il est sorti. Quelques heures plus tard, le jeune soldat s'est réveillé et puis il a vu que minuit était passé, il a pris le pistolet, il l'a appuyé sur sa tempe, se préparant à s'enlever la vie et puis il a vu ces chiffres qui ne balançaient pas, cette phrase qu'il avait écrite. Mais sous cette phrase, il y avait le nom Nicolas. Il connaissait cette signature. Et il y avait le sceau impérial Ils ne comprenaient pas comment ça s'était produit, mais ils savaient que Nicolas était venu et Nicolas s'était engagé à payer sa dette. Alors, il a pris les livres, les a remis sur les tablettes, il a rangé l'or dans le coffre, s'est couché dans son lit et a attendu le matin. Le matin, souvent, Nicolas, avant de quitter, avait laissé le montant d'argent nécessaire pour couvrir cette dette. Un seul mot a apaisé cet homme. C'était le nom Nicolas. Il y a un temps où, comme jeune homme grandissant dans un ghetto de la ville de New York, je savais que j'avais une dette envers Dieu que je ne pourrais jamais payer. Quelqu'un m'a dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ et un mot a apporté la paix dans mon cœur. C'est le nom Jésus. Jésus a payé toutes mes dettes. Il a effacé tous mes péchés. Il a lavé mes péchés et m'a laissé blanc comme neige. Ce que Paul a fait pour Onésime en payant sa dette, ce que Nicolas Ier a fait pour ce jeune soldat, Jésus-Christ le fait pour tous les hommes et toutes les femmes qui placent leur confiance en lui. Il paye la dette que nous ne pouvons payer. Et comme résultat, nous sommes pardonnés. Et c'est une partie de ce message, de cette bonne nouvelle que nous prêchons. Mais il y a plus. À davantage. Je peux imaginer qu'après que Philémon ait lu cela, il a dû dire à Onésime, « Eh bien, Onésime, il a dû dire à Onésime, « OK, Paul va payer. Alors, c'est correct. Va reprendre ton poste d'esclave et puis tu pourras retourner travailler demain. » Et peut-être que c'était Aphia qui a dit, « Chérie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il me semble que tu n'as pas bien lu la lettre. » Ça dit, « Si tu me considères comme ton ami, accueille Onésime comme tu m'accueillerais moi. » Chérie, si Paul était ici, est-ce que tu l'enverrais dans le quartier des esclaves? Non, mais tu sais que je ne ferais pas ça, chérie. Oui, mais regarde ce que ça dit ici. Ça dit, si tu me considères comme ton compagnon, accueille-le comme tu m'accueillerais moi. Je crois que cela signifie que nous devons traiter Onésime comme nous traiterions Paul, notre ami. Vous pouvez imaginer cette scène. Imaginez Aphia dire, conduire Onésime à la chambre des invités. Onésime, voici ta chambre. Paul, si Paul était venu, c'est là qu'on l'aurait installé. Je ne pensais pas que je te demanderais ça jamais, mais qu'est-ce que tu aimerais manger pour souper? Et Onésime de dire, Aphia, je ne pensais pas que je te dirais cela un jour, mais j'ai entendu parler de ton ragoût d'agneau et j'aimerais ça goûter à ça. On ne sait pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais nous avons de bonnes raisons de croire que quelque chose de semblable s'est produit. Et comme résultat, Onésime n'est pas seulement pardonné, mais il est accepté et accueilli comme on aurait accueilli Paul. Et cela aussi reflète cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, dans la version King James en anglais, cela dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Plus de 135 fois. Cela parle de nous comme chrétiens, que nous sommes en Christ, en lui, dans le bien-aimé. Et cela signifie que lorsque vous et moi, nous venons placer notre confiance en Jésus-Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés, nous sommes acceptés. Acceptés dans le bien-aimé. Et Dieu fera, pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ,
tout ce qu'il fera pour Jésus-Christ lui-même. Voilà plusieurs années. Mon épouse et moi avons passé un été en Australie. Nous avons eu un ministère là-bas, à toutes sortes d'endroits. Mais une de ces places où nous avons passé une semaine, dans une petite ville, beaucoup de brebis, quelques fermiers, ils élèvent 50 000 brebis à la fois. J'ai plus appris sur les brebis cette semaine-là que ça m'intéressait, même dans sa voix. Mais une des choses que j'ai appris cette semaine-là, l'hôte m'a dit que pendant l'année, les femelles mettent bas d'un petit agneau. Et si l'agneau meurt, et parfois les mères mettent bas, et c'est la mère qui meurt. Alors les fermiers ont des agneaux sans parents et des mères sans petits. Et tu imagines qu'on pourrait organiser un système d'adoption. Mais s'ils amènent le petit à une autre mère et que la mère ne reconnaît pas son odeur, elle ne s'occupera pas de lui. Alors, la manière qu'ils ont trouvée pour régler cela, c'est qu'ils prennent le petit agneau qui est mort, enlèvent sa peau, placent sa peau sur un petit agneau qu'ils veulent faire adopter. C'est assez étrange à voir. Et ce petit agneau a quatre pattes à lui, et puis il y a comme quatre autres pattes à côté. Et puis la mère le sent, et puis elle l'accepte parce que l'odeur est familière. Elle le protège, elle le nourrit, elle fait tout ce qu'elle aurait fait pour son petit. Il est accepté. Il est maintenant son bien-aimé. Je sais que c'est une illustration très inadéquate, mais d'une certaine manière, cela saisit un peu ce que le Nouveau Testament dit. Quand nous venons placer notre confiance en Jésus-Christ, Dieu nous connaît, il nous connaît très bien, mais c'est comme si, lorsqu'il nous regardait, il voyait son propre Fils. Et tout ce que le Père ferait pour son Fils, il le fait pour ceux qui placent leur confiance en lui. Ils sont acceptés dans le bien-aimé. Voilà près de 50 ans. Je suis allé en Albanie, à Albany, en Oregon, pour prendre mon épouse. Bonnie et moi, nous étions rencontrés au collège. Nous nous étions fiancés. Mais je n'avais jamais rencontré ses parents. Alors, j'allais donc sur la côte ouest, à Albany, en Oregon, non seulement pour me marier, mais pour rencontrer mes futurs parents, beaux-parents. Alors, j'ai pris le train de Chicago et puis un autre train pour me rendre jusqu'à Albany. Alors, ils sont venus me rencontrer à la gare. Nous nous sommes rendus à sa maison. Et je me rappelle, j'ai marché avec Bonnie jusqu'à cette maison sur la 4e avenue. Bonnie a cogné et sa mère a ouvert la porte. Et elle a dit, « Mère, voici Haddon. » J'ai trouvé que sa mère avait bien caché sa déception. Elle a dit, « Viens-t'en, viens-t'en, nous sommes contents de te voir. » Je suis entré, je me suis assis, on a jasé et sa mère a dit, « Tu dois avoir faim, ça fait un long voyage. Alors si tu veux quelque chose, j'aimerais te le préparer. Mais si tu veux quoi que ce soit, le réfrigérateur est rempli de nourriture. Tu prends ce que tu veux, c'est à toi. » Ça faisait simplement 25 minutes que j'étais là puis j'avais accès au réfrigérateur. Alors la mère de Bonnie a dit, « Nous avons une pièce au sous-sol, nous trouvons que c'est la plus belle, c'est tranquille. Tant que tu es ici, tu t'installes là, c'est ta chambre. On veut que tu y sois confortable. » Alors je suis descendu, je suis allé dans le lit. Ça faisait moins d'une heure que j'étais là. J'avais le réfrigérateur et puis la meilleure pièce de la maison. J'ai fait une sieste et puis le père de Bonnie est venu me voir. Il s'est assis près de Julie. On a jasé un peu. Et il m'a dit, « Tu sais, vous allez avoir besoin d'une voiture quand vous allez partir d'ici. » Alors, la voiture est à l'extérieur, remplie d'essence. C'est à toi. Quand t'en as besoin, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Ça faisait moins d'heures que j'étais là. J'avais le réfrigérateur, la plus belle pièce et puis la voiture de la famille. Mais imaginez ce qui se serait produit si j'étais à Albany, en Oregon, et j'étais rentré dans cette maison sur la 4e avenue, que je ne connaissais personne. Je venais de l'extérieur. Je cognais à la porte. Cette dame m'aurait ouvert la porte et je lui ai dit, « Je m'appelle Haddon Robinson. » Et puis elle aurait dit, « Et puis quoi? » Ben, peut-être que si j'avais vraiment faim, peut-être qu'elle m'aurait servi quelque chose. Mais jamais elle m'aurait dit que j'aurais pu aller me coucher dans cette chambre. Mais j'imagine que si j'étais allé dans cette chambre, cette dame aurait fait venir la police. Quelle était la différence? Bien, la différence était que lorsque je me suis rendu à Albany, en Oregon, j'étais accepté dans le bien-aimé, dans la bien-aimée. Monsieur et Madame Vic aimaient tendrement leur fille. Et tout ce qu'ils auraient fait pour leur fille, ils voulaient le faire pour moi. Sa position est devenue ma position. Elle était leur fille, je suis devenu leur fils. Ses privilèges sont devenus mes privilèges. Ses possessions sont devenues mes possessions. J'ai été accepté dans la bien-aimée. Et c'est ce que le Nouveau Testament dit. Quand vous et moi avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés. Aussi glorieux que cela est de savoir que tout est pardonné, que tous vos péchés, toutes les saletés de votre vie ont été pardonnées entièrement, complètement et à jamais. Mais c'est mieux que ça encore. Non seulement sommes-nous pardonnés, mais nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Et tout ce que Dieu le Père fait pour son Fils, il le fait pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Si près de Dieu que je sois, je ne peux être plus près à cause de Jésus-Christ. Je suis tout près de Christ, de Dieu. Cher à Dieu, je ne peux pas être plus cher parce que l'amour qu'il a pour son Fils est son amour pour moi et pour vous si vous voulez placer votre foi en lui. Et c'est ça le message. Pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, qui reconnaissent comment ils sont et s'abandonnent à sa grâce, il y a le pardon complet, entier. Et il y a l'acceptation en le bien-aimé. Et c'est pour cela que nous l'appelons la bonne nouvelle. En fait, si vous y pensez comme il faut, c'est probablement la meilleure nouvelle que vous entendrez jamais.